Bonjour, joyeux Noël et bienvenue. Comme tous les vendredis, c'est le club des têtes au carré. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte du monde de l'infiniment petit, un monde qui défie notre intuition, où s'appliquent les lois de la physique quantique. Nous aurons pour guide l'écrivain et vulgarisateur Christophe Galfard. Et puis l'auteur de la fameuse bande dessinée Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, Marion Montaigne, viendra nous parler de l'adaptation en dessin animé pour Arte de sa bande dessinée. Enfin, nous jetterons un coup d'œil dans le rétroviseur avec la rédactrice en chef du magazine La Recherche, Sophie Kwan. Sophie reviendra sur les trois découvertes scientifiques qui, selon son magazine, ont marqué l'année 2015. Pour réagir à l'un de ces sujets, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et à la une de la science, eh bien, nous partons pour l'Antarctique. Bonjour Sylvain Guilbeault.
Bonjour Daniel. Oui, nous tenterons dans un instant de joindre en direct le glaciologue Jérôme Chaplaz sur la base de Concordia.
Cette émission est réalisée par Stéphane Combe et préparée par Camille Juzot.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
À la une de la science, donc, cap sur le continent blanc à l'extrême sud de la planète.
Les savants de l'année géophysique internationale ont établi au moyen de sondages un profil de la Terre sous les glaces qui recouvrent le pôle. Par endroits, la glace a plus de 4000 mètres d'épaisseur, la plus profonde et la plus épaisse couche de glace qu'on ait jamais mesurée nulle part dans le monde. Des échantillons témoins retirés à des couches de neige plus ou moins profondes révèlent sa température et sa densité.
Un extrait d'un documentaire de 1959, documentaire signé Sidney Stieber pour l'année géophysique internationale. Sur les traces de ces pionniers, un peu plus d'un demi-siècle plus tard, des scientifiques passent Noël en Antarctique sur la base Concordia au milieu du continent blanc. Ils s'apprêtent à partir pour un raid scientifique. Objectif, étudier les glaces anciennes pour comprendre l'évolution du climat. Parmi ces scientifiques, Jérôme Chaplaz du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de l'université de Grenoble. Il devrait être en direct avec nous par téléphone, mais l'Antarctique est très difficile à joindre. Nous avions fait un test téléphonique juste avant l'émission et son téléphone satellite passait. Là, apparemment, pour le moment, ça a un petit peu de mal à passer. On essaye de refaire le numéro du téléphone satellite de Jérôme Chaplaz et on saura un peu ce qu'il devient. Sylvain Guilbeault, la base Concordia, c'est une base un peu particulière. Elle se trouve vraiment dans les terres, hein, en Antarctique.
Oui, c'est ça. Elle se trouve à plus de 1000 km des côtes de l'Antarctique, sur ce qu'on appelle le plateau du Dôme C. Oui. Et donc un peu perdu au milieu du continent blanc.
Oui, voilà. Il faut bien le dire. Il y a plusieurs bases, des bases qui sont comme la base du Mont d'Urville qui se trouve sur les côtes qui sont plus facilement accessibles. Là, on est vraiment à 1000 km à l'intérieur des terres. On a, je crois, on me fait signe, je ne sais pas. On l'a. Alors, Jérôme Chaplaz, êtes-vous avec nous? Bonjour.
Oui, bonjour Daniel, je suis avec vous. Le satellite a été perdu quelques secondes.
Bon, très bien. Quel soulagement de vous entendre. Alors, on essayait un petit peu de décrire le lieu où vous vous trouvez, mais vous êtes bien mieux placé que nous pour nous le dire. Quel est le paysage autour de vous? Quel temps fait-il? Quelle est la durée du jour en ce moment?
C'est un paysage assez irréel. En fait, à perte de vue, c'est du blanc et du bleu. J'ai sous mes pieds la calotte de glace antarctique et c'est de la neige à perte de vue, coupée simplement par les deux tours de la base Concordia dans laquelle nous vivons et puis les tentes dans lesquelles nous dormons et quelques bâtiments techniques. Il fait jour en permanence, 24 heures sur 24, nous sommes à 75 degrés de latitude sud et donc à cette saison le soleil ne se couche pas. Et à l'heure où je vous parle, il fait une température de l'ordre de moins 30, moins 32, il n'y a pas trop de vent donc je peux rester dehors pour vous parler.
D'accord, vous êtes à l'extérieur et moins 32 degrés, c'est supportable? C'est-à-dire que là, la surface de votre peau est à l'air libre ou vous êtes sous des couches et des couches de vêtements techniques pour résister?
Alors, on est très bien équipé. En fait, c'est l'Institut polaire français et Paul-Louis Victor qui nous équipe. On a trois couches de vêtements, donc des sous-vêtements très performants, par-dessus des vêtements polaires et encore par-dessus des vêtements duvet très épaisses. Et puis avec ça, on arrive à tenir. Finalement, ce qui fait vraiment la sensation de froid, ce sont les extrémités. On a beau mettre des gants, on finit toujours par avoir froid aux mains. Et voilà, c'est ça qui limite nos séjours à l'extérieur.
Alors, les choses vont peut-être même se corser pour vous, puisque actuellement, vous êtes dans cette base Concordia avec un confort rudimentaire, mais un confort quand même. Et vous allez bientôt partir pour un raid scientifique à travers le continent blanc. Donc là, évidemment, en autonomie. Où en sont les préparatifs de votre expédition?
Alors en fait, on dépend de ce qu'on appelle le RAID de l'Institut Polaire. En fait, le RAID, ce sont des véhicules à chenilles équipés de caravanes et de conteneurs qui partent de la côte, donc sur la station française du Mont-d'Urville, sur la côte antarctique, et qui parcourent ensuite 1100 km pour atteindre la base Concordia. Ça leur prend environ 12 jours, parce que les véhicules avancent à une vitesse de l'ordre de 8 à 9 km/h. Et donc, quand ces véhicules arriveront à la base Concordia, on va les récupérer et on va rouler pendant environ une journée pour atteindre un site situé à 130-140 km d'ici, où nous allons poser deux caravanes et puis nous allons travailler pendant environ 3 semaines là-bas.
Alors, quels sont les objectifs de votre mission ?
Alors les objectifs, en fait, on est dans cette quête de connaissances sur le climat du passé. On essaie de comprendre le fonctionnement de la machine climatique terrestre et notamment de comprendre les relations dans le temps qui lient en fait les gaz à effet de serre et le climat terrestre. Et pour étudier en fait ces phénomènes très fondamentaux, on a besoin de comprendre particulièrement comment la neige ici en Antarctique se transforme en glace. C'est un processus physique très long qui dépend des conditions de température, qui dépend de la quantité de neige qui tombe chaque année. Et on va sur ce site pour étudier des conditions très particulières de température et de précipitation.
Sylvain Guilbeault vous pose une question, Jérôme Chaplaz.
Alors, par exemple, qu'est-ce que ces carottes de glace nous apprennent sur le climat de la Terre ?
Énormément de choses. En fait, les carottes de glace sont des immenses livres que l'on voit finalement dans la glace. Et qui, page par page, nous racontent l'histoire du climat, l'histoire de la composition de l'atmosphère, l'histoire des océans, l'histoire du désert, etc. C'est tout ça qu'on va chercher dans la glace, par l'effet en fait de très fines impuretés, très, très peu concentrées, qui sont présentes dans les précipitations neigeuses. Notre travail, c'est de remonter en fait des pages de ce livre à la surface, et ensuite de les faire parler dans nos laboratoires. Donc là, on est vraiment dans la phase primordiale, l'acquisition des pages du livre, et c'est ce qui nous occupe ici pendant ces quelques mois en Antarctique.
Jérôme Chaplaz, on sent qu'autour de vous, hein, il y a du vent, parfois votre voix se robotise un peu, mais on arrive à comprendre l'essentiel de vos mots, et c'est l'essentiel. On se demande, vous allez là-bas, avant tout le moteur, c'est le goût de l'aventure, ou c'est aussi le goût des sciences ? Parce qu'on imagine qu'il faut vraiment payer de sa personne pour se retrouver comme ça pendant plus d'un mois dans des conditions aussi extrêmes que celles que vous décrivez.
Alors en effet, je pense que le moteur principal pour nous, ça reste la science. On est dans cette quête de connaissances et cette amélioration de nos connaissances fondamentales. Mais je peux pas vous cacher effectivement que le côté aventure est assez exceptionnel ici. On est dans un environnement incroyable, très difficile à décrire. Il faut vraiment y avoir mis les pieds pour se rendre compte de ce qu'on peut vivre là. Et ça fait partie de l'attrait. Alors il faut pas être frileux. Mais ce sont des conditions assez extraordinaires de travail.
Ouais, des conditions extraordinaires de travail, des conditions aussi assez extraordinaires pour passer Noël. Vous êtes donc dans cette base confinée avec 70 autres personnes, la plupart des scientifiques et puis aussi les techniciens de la base Concordia. Comment on fête Noël en Antarctique au milieu de nulle part ? Ah, on est en train de perdre Jérôme Chaplaz. On ne saura peut-être pas comment se passe ce Noël. Est-ce que Jérôme est encore avec nous? Jérôme Chaplaz, vous m'entendez? On a perdu Jérôme Chaplaz, quel dommage. Peut-être qu'on arrivera à avoir un petit supplément tout à l'heure pour savoir comment se passe Noël, mais on a compris l'essentiel de sa mission et c'est l'essentiel. Merci à lui d'avoir pris le temps de nous répondre sur son téléphone satellite Iridium. Et merci à vous, Sylvain Guilbeault.
Merci, à bientôt.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la récolte et la commercialisation des moules et palourdes de l'étang de Thau sont provisoirement suspendues. Le préfet de l'Hérault a pris cette décision hier après-midi. Les analyses ont en effet révélé des concentrations de toxines paralysantes supérieures aux critères de sécurité réglementaire. Ces toxines sont produites par des micro-algues dont la croissance est favorisée par l'augmentation de la température de l'eau et par la lumière. La consommation de coquillages contaminés peut provoquer des engourdissements des lèvres, du visage, ainsi que des maux de tête et des vertiges. Le ramage des oiseaux n'a pas d'âge. Le plumage des oiseaux ne perd pas ses couleurs avec l'âge. Pour tenter de comprendre pourquoi, les scientifiques ont observé au microscope électronique les plumes des geais des chênes. Ces images ont révélé des structures minuscules constituées de trous de taille variable. Ce sont des jeux de réflexion de la lumière sur ces trous qui donnent la couleur au ramage des oiseaux. Contrairement aux pigments qui colorent nos cheveux, ces structures ne s'altèrent pas. Avec le temps, pas de plumes grisonnantes, donc chez les oiseaux. on termine avec les vertus du sirop d'érable. Le sirop d'érable ne sert pas seulement à aromatiser les pancakes, il posséderait également des propriétés anti-inflammatoires. Des chercheurs de l'Université de Laval, au Québec, ont en effet démontré qu'une molécule du sirop d'érable était capable de bloquer les réactions inflammatoires de l'organisme. Ils ont pu synthétiser cette molécule et tester ses effets in vitro. Ces travaux ouvrent peut-être la voie à de nouveaux médicaments. Quant au nom de cette molécule, il ne s'invente pas le Québécol. Au menu des discussions de ce club des têtes au carré aujourd'hui, de la physique quantique avec l'écrivain vulgarisateur Christophe Galfard, une série de dessins animés scientifiques humoristiques avec l'auteur de bande dessinée Marion Montaigne et une rétrospective des grandes découvertes de l'année 2015 avec la rédactrice en chef du magazine La Recherche, Sophie Kwan. Nous attendons vos réactions à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Parfois je vois les détails qui te gênent, et j'en écris des tirades, des poèmes. Pousse souvent sur ma langue des aiguilles affûtées, sans effet boomerang, je vais te piquer. C'est un peu la chanson de l'amoureux du mecton qui tue à part amour et se retrouve en prison. Que des bons, que des bons, que des bons, que des bons, que des bons sentiments. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Et tu le sais, dis, que tu le sais, dis. Moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Parfois je teste ton rire, je dis n'importe quoi. Si ça ne te fait pas sourire, j'ai manqué ma proie. Le daltonien te dira que la pelouse est bleue. Moi pour te dire que j'aime bien, je m'écris cet hideux. Y penseras-tu maintenant lorsque tu m'entendras te charrier mon enfant, c'est pas ce que j'ai pour toi. Que des bons, que des bons, que des bons, que des bons, que des bons sentiments. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Que des bons, que des bons, que des bons, que des bons, que des bons sentiments. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Et tu le sais, dis, que tu le sais, dis. Moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Et tu le sais, dis, que tu le sais, dis. Moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Oh, ah, oh, 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 oh. Je vois le détail qui te gêne, et j'en écris des tirades, des poèmes. Parfois je teste ton rire, je dis n'importe quoi. Si ça ne te fait pas sourire, j'ai manqué ma proie. Oh, oh, oh. Que tu le sais, dis, que tu le sais, dis. Moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Que tu le sais, dis, que tu le sais, dis. Moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie.
C'était Vianney, tu le sais, dans La Tête au Carré sur France Inter. Et on a de nouveau retrouvé notre glaciologue perdu en Antarctique. Ça devient le fil rouge de cette Tête au Carré. Jérôme Chaplaz, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends à nouveau.
Allez, alors juste pour conclure cette discussion, je vous demandais comment on passe Noël en Antarctique ?
On le passe très bien. En fait, le cuisinier nous soigne vraiment parce que c'est un moment quelque part difficile pour tout le monde. Noël, c'est une fête de famille. Et nous sommes tous très loin de nos familles, donc quelque part le cœur est assez serré. Et le cuisinier prend complètement conscience de ça et nous gâte à cette occasion.
C'est important, hein, c'est important quand on est loin de tout comme ça, d'avoir un cuisinier qui fait bien à manger. Tous les explorateurs qui partent en Antarctique dans ces bases disent que c'est un rôle crucial.
Le rôle du cuisinier technique cruciale.
Bon, ben voilà.
La mission se passe bien, pas bien. Le moment que l'on passe autour de la table est important.
On est en train de vous perdre à nouveau, Jérôme Chaplace. Décidément, les dieux des téléphones satellites ne sont pas avec nous. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance pour votre expédition. Au revoir.
Si je prends mon verre, il y a de l'eau dedans, et que je vous le lance dessus, hop, ah, il y en a quelques-uns qui s'écartent un petit peu. Personne dans la salle, ni nulle part sur Terre, ne s'est dit qu'une fois lancée, l'eau qui vole va s'arrêter au milieu, faire demi-tour et revenir dans mon verre. Pourquoi ? Parce que nous avons tous l'intuition qu'il existe des lois dans la nature et que ces lois ne peuvent pas être violées. Le but de la physique théorique, c'est de découvrir ces lois. Depuis Newton, on peut décrire tout ce qui se passe autour de nous. Le comportement de tous les objets, c'est bon, on sait faire. Mais depuis Newton, on est allé un petit peu plus loin. On est même rentré dans un monde qui est au-delà de nos sens, un monde dans lequel notre intuition ne marche plus. C'est un monde merveilleux, vous allez voir.
C'était Christophe Galfard. Le 1er novembre dernier, au Théâtre du Châtelet, il donnait une conférence sur les univers parallèles et la révolution quantique avec TEDx Paris, dont le Club des Têtes au Carré est partenaire. Et Christophe Galfard nous a rejoint. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors c'est un plaisir de vous accueillir un 25 décembre en plus parce que vous avez l'art de nous présenter la physique et les avancées scientifiques un peu comme des contes de Noël. Vous aimez raconter les sciences. Vous avez d'ailleurs publié un roman pour enfants en plusieurs tomes, Le Prince des Nuages, aux éditions Pocket Jeunesse. Et puis pour les plus grands, L'Univers à portée de main chez Flammarion, livre qui a été très récemment récompensé par un prix. Alors bravo, félicitations à vous. Et donc là, on l'entendait à l'instant, vous proposiez donc à ce public des TEDx Paris de partir à la découverte d'un monde merveilleux, celui de l'infiniment petit, régi par des lois qui défient totalement notre intuition. Qu'a-t-il de si singulier ce monde de l'infiniment petit, Christophe Galfard ?
Tout, pour être honnête, absolument tout. Si vous voulez, d'une certaine manière, notre intuition, notre sens commun est basé sur la façon dont nos corps peuvent appréhender la réalité qui nous entoure. Ces corps, qui sont les nôtres, ont des sens qui sont un petit peu nos fenêtres sur le monde. Et ces sens-là ont évolué dans un but au moins pratique qui est notre survie. De là, on a réussi à voir, à entendre, à voir certaines lumières d'ailleurs, pas toutes, à entendre certains sons, pas tous, et ça nous donne une sorte d'intuition sur ce qui se passe autour de nous. Maintenant, de croire que nous, nos petits corps, qui flottent comme ça sur un petit grain de poussière au milieu de l'univers, que nos petits corps, à travers ces sens, ont réussi à nous donner l'intuition de l'ensemble des lois de notre univers, ce serait un petit peu prétentieux.
Ah oui.
Non seulement c'est prétentieux, mais en plus complètement faux.
Ouais. Et alors, on se rend compte que cette exploration de ce monde de l'infiniment petit avec ses règles de la physique quantique, c'est un peu un nouveau continent de la physique qui a été découvert par des explorateurs un peu successifs. De proche en proche, on aborde ce continent. Ça commence avec Einstein ?
Un petit peu avant, peut-être même avec Planck, qui a réalisé d'une certaine manière qu'il devait exister dans le tout petit, cette notion de petit paquet d'énergie. Et petit paquet en latin, ça se dit quantum. Donc c'est là qu'est née la physique quantique. Et c'est quelques années plus tard, pas longtemps, en 1905, qu'Einstein a publié un autre papier dans lequel il explique un phénomène qui était jusqu'ici incompréhensible. Vous prenez une plaque de métal, vous l'illuminez avec de la lumière, vous vous dites que la lumière ça a une certaine énergie, et donc de temps en temps vous devriez réussir à arracher quelques électrons ou quelque chose de cette plaque de métal. Et bien vous pouvez prendre une certaine lumière et augmenter autant que vous voulez l'intensité, il ne se passera rien. Vous n'arriverez à rien arracher de cette plaque de métal. Mais si vous changez de lumière et que vous prenez un incrément supérieur d'énergie de la lumière elle-même, là vous allez y arriver. Ce qui veut dire d'une certaine manière que la lumière elle-même est faite elle aussi de petits paquets d'énergie, petits paquets qu'on appelle des quantas, et ce qui prouvait a posteriori que la lumière était faite de photons, donc de petites particules.
Et on va de surprise en surprise parce que après la lumière en petits paquets, c'est De Broglie qui va réaliser le rêve de n'importe quel doctorant, ce qui va faire la thèse, qui va lui valoir 7 ans plus tard un prix Nobel. Qu'est-ce qu'il va découvrir De Broglie pour avoir ce prix Nobel? Là, on est en 1925, on avance un peu dans le siècle.
On est quelques 20 ans plus tard, effectivement, et ce jeune Français, Louis De Broglie, à base de calculs, il réalise que la matière, elle aussi, devrait être faite de petits paquets d'énergie, qu'elle devrait obéir aux lois du monde quantique et qu'il n'y a, au fond, pas vraiment une énorme différence entre matière et lumière. Et vous l'avez très bien dit, de 7 ans après sa thèse, il a eu le prix Nobel.
C'est rare, c'est extrêmement rare. C'est un coup de maître quand même après sa thèse.
Il y a Dirac aussi qui a réussi cet exploit.
Ouais. Alors, toujours dans les explorateurs de ce continent de la physique quantique, il y a Schrödinger. Schrödinger, alors vous dites, c'est une belle formule, vous dites, il y a eu Newton pour les lois de la physique que l'on connaît à notre échelle, et Schrödinger a fait la même chose pour l'infiniment petit avec cette histoire, la fameuse histoire, le chat de Schrödinger. C'est quoi l'histoire du chat de Schrödinger?
Alors, une des choses que Schrödinger a réussi à faire en même temps qu'un autre scientifique qui s'appelle Heisenberg, ils ont réussi tous les deux à trouver un formalisme qui permet justement de faire évoluer des particules quantiques. Newton nous permet, si on connaît l'état du monde à un état donné, on peut le connaître l'état d'après. Je ne parle pas du monde en entier, on parle d'une flèche qu'on va lancer ou une planète autour d'une étoile et ce genre de choses. Schrödinger, lui, il a fait un petit peu la même chose pour le monde du minuscule. Le problème, c'est quoi une particule? Et là, on rentre un petit peu dans un formalisme qui est étonnant. Pour vraiment dire quelque chose à minima, étonnant, complètement déroutant, ce serait peut-être mieux. Dans le très petit, on est dans cette catégorie de lieu qui est au-delà de nos sens. Nous, avec nos petits doigts, on arrive à toucher la surface d'une table, là, comme ici, ou une feuille, ou du papier. On n'arrivera pas à ressentir les atomes eux-mêmes. Parce qu'il y en a beaucoup trop, nous on ressent une moyenne. Si on va sur une seule particule quantique, ne serait-ce que d'arriver à la décrire, c'est extrêmement difficile. Par exemple, des notions qui nous sont familières, du style une flèche va être ici et va avoir cette vitesse-là, dans le monde du tout petit, ces notions n'existent pas. Donc c'est pas nous qui comprenons mal, c'est que les notions ne sont pas les bonnes. Il en faut une autre, qui est une sorte de nuage. On pourrait dire une sorte de nuage de probabilité d'existence. Ouais. C'est-à-dire que
c'est-à-dire qu'il faut les voir, ces particules.
On ne peut même pas les voir.
Non, les imaginer, les concevoir, pardon, comme des nuages de probabilités. Mais déjà là, ça défie un peu l'entendement parce qu'on n'est pas habitué à se figurer ce genre de choses.
Tout à fait. Et pourtant, c'est la meilleure représentation qu'on ait du monde du tout petit. Une sorte de nuage de probabilités qui va se déplacer dans le temps. Et ces probabilités, c'est sur l'ensemble de toutes ces caractéristiques. Pour prendre l'exemple d'une flèche. Une flèche peut avoir sa flèche vers l'avant ou vers l'arrière. Bon ben là, une particule peut avoir sa flèche dans les deux sens en même temps. Ça ne correspond pas à notre réalité à nous. On n'a pas quelqu'un qui vous regarde vous et qui regarde dans l'autre direction en même temps, c'est pas possible. Donc il y a forcément quelque part une transition entre ces lois du monde quantique et les nôtres. Cette transition, elle est extrêmement difficile à voir. Schrödinger a même posé une colle, une question, une expérience de pensée, comme on l'appelle, qui essaye de montrer ce que ça voudrait dire à notre échelle à nous, si on arrivait à zoomer, d'une certaine manière, les effets quantiques. Et c'est là que vient le chat de Schrödinger.
Alors rapidement, c'est quoi le chat de Schrödinger?
Il a mis ce chat dans une boîte fermée. À l'intérieur de cette boîte, il a mis aussi un petit mécanisme, un peu sadique, basé sur une substance radioactive. La substance radioactive a cette propriété qu'elle peut se casser en deux ou pas. Mais c'est une substance quantique. Donc quand je dis ou pas, c'est et pas en réalité. Elle se casse et elle ne se casse pas. C'est dans le monde quantique, on le voit pas, c'est pas très grave. Sauf que il a relié cette petite substance à un mécanisme qui fait que si la substance se désintègre, alors un poison est libéré et tue le chat. Si la substance ne se désintègre pas, pas de poison, le chat reste vivant. Si on suit les lois de la mécanique quantique, à l'intérieur de la boîte, tant qu'on n'a pas regardé, tant qu'on n'a pas interagi avec elle, le zoom, si vous voulez, depuis le monde quantique jusqu'au chat, s'opère. Les lois du monde quantique sont transmises au chat.
Donc le chat est vivant et mort.
Vu que la substance radioactive s'est désintégrée et ne s'est pas désintégrée, le chat, au final, est à la fois mort et vivant.
On a l'impression d'une question totalement absurde, et vous dites cette question absurde, finalement, elle a occupé des générations d'éminents scientifiques.
Exact. C'est quelque chose de très étrange, le passage du monde quantique où tout est possible au chat qui est à la fois mort et vivant et qui, lorsque vous ouvrez la boîte, finalement n'est que l'un des deux. Imaginez que vous ouvriez la boîte et que vous voyez un chat vivant. Vous vous demandez, il est passé où le chat mort? C'est cette question-là qui a tracassé les scientifiques pendant des années. C'est à partir de cette question-là qu'est née peut-être pour la première fois l'idée d'univers parallèle dans lequel le chat mort serait, c'est-à-dire un autre choix qui aurait été fait par la nature et qui serait la réalité dans un autre univers que le nôtre.
Ça paraît des questions totalement conceptuelles et abstraites. Est-ce que ça débouche parfois sur des réalités, des applications très concrètes pour nous, notre quotidien?
Alors, en l'occurrence, oui. Tout ce qui est phénomène quantique, c'est utilisé dans absolument toutes les technologies dont on sert au quotidien, depuis les téléphones portables aux ordinateurs, et voir certains postes de télévision qu'on a aujourd'hui. Ce sont les lois de Schrödinger, disons, ou d'Heisenberg, les lois du monde quantique qui s'appliquent pour certains composants qui sont à l'intérieur de ces... sans lesquels on n'aurait absolument pas la technologie actuelle. Et ça ouvre aussi, peut-être, sur la technologie de demain. Et ça, c'est beaucoup plus amusant, peut-être.
Ouais. Alors, ce serait quoi? Ce serait le fameux ordinateur quantique. Quelles en seraient les propriétés de cet ordinateur?
Dans l'idée, le monde quantique est donc une superposition d'états. D'accord. Dès qu'on est dans le tout petit, une particule, disons un électron, peut être dans plein d'états différents en même temps, comme la flèche qui est à gauche et à droite. Et pour faire des calculs dans nos ordinateurs à nous, on utilise ces électrons, ou en tout cas ces petites particules. Dans un ordinateur quantique, on utiliserait les propriétés quantiques de ces électrons, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans plein d'états en même temps. Ce qui permettrait à ces ordinateurs-là de faire des calculs simultanés en parallèle avec les mêmes particules, ce qui décuplerait des millions de fois les capacités de calcul d'un seul ordinateur.
Donc un ordinateur de ce type
pourrait remplacer quasiment tous les ordinateurs du monde d'aujourd'hui.
Ouais. Assez vertigineux. Merci Christophe Galfard d'être venu mettre quelques pincées de physique quantique dans la magie de Noël. On peut voir votre conférence TEDx Paris sur YouTube. Ça dure 11 minutes, c'est passionnant. Nous avons mis en lien sur la page de l'émission un lien vers cette vidéo. Et puis on peut vous lire aussi Le Prince des Nuages chez Pocket Jeunesse pour les enfants. Et puis pour les plus grands, L'Univers à portée de main. Chez Flammarion, merci Christophe Galfard.
Merci.
Avenir dans le club des têtes au carré, Marion Montaigne, auteur de la bande dessinée Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Sa bande dessinée à succès débarque en version dessin animé sur Arte. C'était Silence de Indy Zara dans le club des têtes au carré sur France Inter.
Prof, c'est un certain Ryan qui veut savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment se battre avec des sabres laser.
Voilà le genre de courrier auquel s'attache à répondre depuis près de 7 ans maintenant le professeur Moustache, avec autant de rigueur scientifique que d'humour. Le professeur Moustache est le personnage central de la bande dessinée Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, dont l'auteur Marion Montaigne vient de me rejoindre. Bonjour Marion Montaigne.
Bonjour.
Alors le professeur Moustache est né sur un blog en 2008. Il a grandi ensuite assez vite en bande dessinée. Vous en êtes au 4e tome aux éditions Delcourt. Et le voilà qui débarque sur Arte en dessin animé lundi 4 janvier prochain, tous les soirs à 20h45. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la bande dessinée Tu mourras moins bête, prenons le temps de décrire un peu votre univers, Marion Montaigne. Quel est le genre de questions auxquelles vous tentez d'apporter des réponses scientifiques ?
J'essaye de m'intéresser à la science dans le quotidien déjà, parce que par exemple, on se pose souvent des questions quand on prend l'avion, c'est quoi ce bruit, est-ce que je vais mourir, pourquoi il y a des turbulences, ou des choses plus techniques comme un accélérateur de particules, ça fait peur, mais il y en a beaucoup en fait, c'est assez fréquent, et puis on les représente un peu n'importe comment dans les films. Toutes ces questions qu'on se pose soit dans le quotidien, soit qu'on voit indirectement dans la pop culture, ou les questions qu'on se pose sur notre corps, parce qu'on en a tous un.
Oui. Vous aimez bien hein, la bio, corps, les animaux.
Bio. Ah là là, ouais, je suis très bio.
Donc il y a les sujets, les questions sérieuses, à quoi servent les rêves, le boson de Higgs, qu'est-ce que c'est ? Et puis il y a celle un peu plus farfelue, hein. Quand pourrons-nous voyager comme dans Alien ? Peut-on confondre la pâtée pour chien avec des rillettes ? Réponse, est-ce qu'on peut confondre ces deux choses-là ?
Eh ben, on a fait des tests. L'idée, c'était de voir si les gens pouvaient se rendre compte parmi certains pâtés qu'il y en avait un qui était pour chien. Et en fait, certains en ont jugé un vraiment pas bon, mais n'ont même pas dit que c'était pour chien. Ils se sont dit, c'est tellement dégueulasse que ça peut même pas être pour chien. En fait, le but, c'est de savoir déjà comment marche le goût, même celui des chiens, parce qu'il y a des fabricants de nourriture pour chiens, et le chien est plus basé sur l'olfactif, et l'humain moins. Mais surtout, il y a beaucoup de gens qui mangent de la pâtée pour chien aussi. Il y en a 60, je ne sais plus combien de boîtes vendues sont mangées par des humains, hélas.
Ouais, on apprend de drôles de choses en vous lisant. Votre but, c'est vraiment rendre compréhensible et drôle à la fois la science pour le plus grand nombre. Qu'est-ce qui constitue une bonne question qui mérite que le professeur Moustache réponde ?
Alors, comme c'est de la bande dessinée, il faut que ce soit visuel. Il faut que ça ait une certaine durée s'il y a des thèmes qui demanderaient beaucoup de révision presque en physique, en chimie. Il faut pouvoir vite passer à l'action, si j'ose dire. Ben moi, il faut que je m'amuse un peu en dessin et que surtout il y ait du gag physique. Ouais. Donc oui, c'est pour ça que je fais beaucoup de biologie, parce ouais. que c'est... On a tous un corps, on a tous des problèmes et surtout très vite on peut en parler visuellement.
Alors c'est drôle, parfois un peu scato, un peu potache, des dessins très expressifs mais réalisés à grands traits. Hein. Vous dessinez vite de façon efficace.
Oui, c'est un peu comme un dessin de presse, il faut que ce soit aussi vite que j'écris et surtout je suis un peu une lectrice flemmarde, alors je pars du principe que je dois ne pas ennuyer le lecteur, donc ouais. J'y pense tout le temps.
Alors c'est un vrai succès auprès du public, hein, le prix du public à Angoulême en 2013, mais aussi, et c'est peut-être plus étonnant, auprès des scientifiques, ils sont nombreux à vous lire, les scientifiques.
Bah, ils sont assez indulgents, enfin je pense que ceux qui n'aiment pas, bah, j'en entends pas parler. Mais j'ai appris que oui, ils se l'offraient souvent lorsqu'ils avaient soutenu leur thèse. Et ça me fait très plaisir. Je pense qu'ils sont contents qu'on s'intéresse un peu à eux. Même si ce n'est pas parfait, ils voient, enfin, je pense qu'ils voient l'intérêt. C'est une porte d'entrée pour montrer leur univers, l'univers des labos, et aussi montrer que c'est pas forcément des vieux croutons avec de la barbe, c'est des jeunes.
Et puis vous faites ça très sérieusement, hein, c'est toujours sourcé, vous dites vos sources, vous allez enquêter dans les laboratoires, alors doit être plus facile maintenant, mais vous contactez régulièrement les chercheurs pour aller les voir sur le terrain, pour voir de quoi ils retournent.
Oui, quand je remercie un chercheur, il existe, je suis allée le voir, je l'ai embêté une bonne grosse journée, je lui ai fait relire mes planches, et surtout, j'aime bien faire mon petit blog de bibliographie pour les gens s'ils veulent approfondir. J'aime bien faire mon petit carré et j'aime pas qu'on le lise pas. Mais oui, des chercheurs, j'essaye aussi de faire relire quand je mets en édition, à faire relire par des médecins, des...
Mais maintenant, c'est même l'inverse. Hein. Ce sont eux, les scientifiques, même les institutions qui viennent vous chercher, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, le Muséum également, vous ont invité à venir croquer leurs chercheurs, raconter leurs recherches. Je crois que le CNES vous a même emmené jusqu'en Guyane pour voir décoller les fusées.
Moi, non, c'est encore mieux, parce que j'ai fait, ils m'ont mis dans un vol parabolique pour me retrouver en apesanteur. Mais je pense que si je demandais, oui, je pourrais voir peut-être un... Non, je ne l'ai pas vu à Kourou. Ils ont un doublon de la salle d'envoi en région parisienne, mais vous, c'est presque tout comme en fait. Et ça, j'ai assisté à ça.
J'imagine que vous n'imaginiez pas que ça irait si loin et si vite en débutant votre blog en 2008.
Non, pas du tout. Pour moi, c'était au début une petite cour de récré pour me tester. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment super pour moi parce que je me retrouve dans des situations que j'aurais jamais espérées. J'ai tous les avantages de la recherche sans les inconvénients, ouais. En fait.
Et la nouvelle étape, c'est la transposition de la bande dessinée en dessin animé pour Arte. Il a fallu mettre en mouvement vos dessins et donner une voix aussi au professeur Moustache. Et vous auriez pu tomber plus mal hein, pour le professeur Moustache et sa voix. On va laisser le soin aux auditeurs de deviner qui fait la voix du professeur Moustache qui tente de savoir si c'est possible de rétrécir les gens comme dans le film Chérie, j'ai rétréci les gosses.
Dans le scénario du film, il se contente de retirer tout le vide qu'il y a dans les atomes.
C'est des putains de génies ces scénaristes.
C'est vrai qu'un atome, c'est plein de vide. Si l'atome avait la taille d'une cathédrale, le noyau, lui, ne serait pas plus gros qu'une mouche.
C'est vous dire s'il y en a du vide.
Prenons Nathanel et essayons de le rétrécir en lui enlevant tout son vide.
Ça va faire mal?
Il y a des chances. Mais... Oh, on devrait plutôt obtenir de la pâté de Nathanel. Mais bon, admettons que ça marche. Après avoir retiré le vide de ses atomes, Nathanel ne mesure plus que 6 mm. Mais il pèse toujours 75 kilos. Trop lourd pour ses petites jambes.
Chérie, j'ai retrouvé les gosses, hein. On dirait des limaces.
Papa !
Un extrait donc de ce petit dessin animé, ça dure 3 minutes. À chaque fois, ce sont des petits modules qui vont passer sur Arte à partir du 4 janvier à 20h45. Pendant 2 mois, il y a 30 épisodes pour le moment. Et donc la voix du professeur Moustache...
C'est François Morel.
François Morel, qu'on connaît bien ici à France Inter. Oui. Vous savez pourquoi il a eu envie de participer à...
Je crois que c'est pas la première fois qu'il double... Il fait aussi la voix de Rantanplan. Et je pense que ça l'amusait de faire du dessin animé. Mais là, c'était un peu plus trash que Rantanplan. Quand il découvrait les scénarios, il faisait « Ah ouais, d'accord.
Oui. » Alors vous dites un peu plus trash. C'est intéressant ça, parce que quand on lit déjà votre blog, puis ensuite vos bandes dessinées, c'est vrai qu'il y a une vraie liberté, vous vous autorisez beaucoup de blagues, parfois un peu grivoises, je le disais.
Oui.
Quand on est venu vous proposer de faire la même chose pour Arte, est-ce que vous vous êtes dit, je vais perdre cette petite part de liberté que j'avais?
Alors, en fait, on a répondu à une appel d'offres et avec le producteur, dès le départ, on s'est dit, on va vraiment mettre ça en avant, c'est-à-dire qu'on veut l'adapter tel qu'il est, avec le ton qu'il a, parce qu'on pense que ça fait partie de ce qui a fait son succès. Donc, de fait, on a été bien accompagnés et il y a une bonne compréhension de la part d'Arte qui a compris qu'il fallait garder ce ton-là parce que ça faisait partie de l'esprit, quoi. Mm-hmm. Donc, ils ont eu le cran de le faire.
C'est vous qui choisissez les sujets en totale liberté ou il y a une interaction avec Arte pour voir si ça passe pas.
En BD, je fais ce que je veux, mais après, non, on essaie surtout d'alterner... déjà les sujets, pour pas faire que de la bio, pour pas qu'il y ait que des corps humains, etc. à la suite, d'alterner les sujets, ceux qui étaient vraiment scientifiques avec des données, parce que c'était, y en a qui le sont plus ou moins. Puis on avait chacun nos favoris. Moi j'avais mes préférés. Le réalisateur en avait d'autres. Donc on a essayé de faire un mélange de tout ça.
Avec une petite contrainte supplémentaire pour Arte, qui est une chaîne franco-allemande, il fallait que ça fasse rire et les Français et les Allemands.
Bon, oui, bah on verra. Non, c'est surtout les références. Nous, on s'est dit, est-ce que cette référence-là marche ou pas? Et on peut pas mettre des personnalités qui marchent en France et pas en Allemagne. Mais après, pour l'humour, c'est toujours compliqué. On va faire d'abord, on espère. Mmh. Moralement.
Alors, quelques autres petits exemples de sujets dans cette série de 30 épisodes pour Arte. Un qui a bien marché, je crois, lors des premières projections de presse, sur les adolescents. Pourquoi les ados sont-ils mous? Vous avez une réponse scientifique à cette question?
Alors, en fait, je me suis beaucoup inspirée d'un livre qui s'appelle « Les ados et les bonobos » de Nathalie Levissal, ou Levissal, je ne sais pas comment ça se dit. Et elle a rassemblé toutes les données scientifiques vraiment qu'on a fait sur les ados, les IRM, les études sur le cerveau, et elle explique très bien que c'est l'âge où on est complètement flasque parce qu'on grandit trop vite par rapport les muscles, par rapport aux os. On a le centre de gravité pas encore au point parce que le cerveau grandit et en décalé. Et elle explique ça très bien et c'est passionnant comme livre parce que c'est pas de leur faute. Ils sont physiquement mous, ils sont physiquement, mentalement mous aussi parce qu'ils sont en jet lag complet. Eux, ils auraient besoin de commencer les cours plus tard et de se coucher plus tard. Tout comme les vieux, eux, bah, se couchent à 18h, bah, c'est pareil, enfin, ils sont décalés. Et je recommande ce bouquin. Et donc, je pense qu'il a beaucoup fait rire parce qu'on a soit des ados, soit on l'a été. Donc, on rigole sur nous-mêmes et ouais, notre pauvre condition.
Alors, d'autres questions. L'ophtalmologie chez les animaux. Faut-il avoir peur d'avaler une araignée en dormant? Réponse, faut avoir peur ou pas?
Non, c'est un mythe urbain. Alors, non, parce que l'araignée n'a pas trop intérêt à tomber dans notre bouche, en fait. Elle est assez bien équipée pour sentir les vibrations et même le goût avec ses pattes. Donc, non, faudrait vraiment qu'il y ait un accident. Moi, je serais une araignée, enfin, j'irais pas, quoi. Elle tombe pas comme ça dans la bouche.
Comment l'illustratrice que vous êtes, hein, vous avez fait une école de dessin, ouais. Les Gobelins, une école prestigieuse, et vous vous retrouvez au cœur de la science avec tous ces scientifiques. C'est quoi? C'est une vocation ratée, contrariée? Vous êtes une scientifique contrariée vous-même?
Mais je crois que j'aimais beaucoup la bio et je me suis un peu dévalorisée quand j'étais en terminale. Je pensais pas qu'il fallait être bon, fallait être méga bon, quoi. Je pensais que tous les efforts que je fournissais, il fallait pas les faire, qu'il fallait sans réfléchir avoir 18, quoi. En fait, je pense que faut surtout être très très curieux et être passionné, mais moi c'est de la vulgarisation, hein. c'est pas de la recherche, c'est peut-être un autre aspect, une autre branche, mais
vous êtes
non,
bien
c'est de la
sur
curiosité,
cette...
ouais, quoi.
Vous êtes bien sur cette branche-là.
Oui, je suis bien.
Vous sentez bien.
Je butine comme ça.
Tu mourras moins bête à découvrir à partir du 4 janvier sur Arte, tous les jours à 20h45. Il y a 5 épisodes à voir en avant-première sur le site d'Arte. Nous allons mettre un lien sur la page de La Tête au Carré. Et puis, toujours, les 4 tomes de la bande dessinée aux éditions Delcourt. Merci, Marion Montaigne.
Ben, merci à vous.
Dans un instant, nous allons découvrir les 3 découvertes de l'année 2015 que le magazine La Recherche a décidé de mettre en tête dans sa rétrospective de l'année.
Think twice.
C'était Crazy Knowles Barclay sur France Inter dans le club des Têtes au Carré. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Sophie Kouan, rédactrice en chef du magazine La Recherche, est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Daniel.
Alors comme chaque année, à pareille époque, le magazine La Recherche livre son classement des 10 découvertes de l'année. Alors 2015 a-t-elle été une bonne année du point de vue des avancées scientifiques ?
Ah, une année très fructueuse. Dans notre palmarès, nous avons notamment cette fabuleuse nouvelle de la mise au point d'un vaccin contre le virus Ebola.
Oui, alors ça c'est la troisième position. Alors évidemment, on ne va pas faire les 10 avancées scientifiques du magazine La Recherche. On va se concentrer sur le podium, les trois premières. Et en troisième place, il y a effectivement donc cette mise en avant du vaccin contre Ebola. Il y a eu une avancée majeure dans la lutte contre ce virus.
Ben oui, le vaccin, c'était quelque chose qui était quand même étudié depuis un moment. Les scientifiques avaient dans leur valise testé des vaccins sur l'animal. On avait même testé la non-dangerosité de ces vaccins-là sur l'homme, mais on n'avait jamais testé leur efficacité. Et c'est face à cette épidémie galopante qui avait commencé en décembre 2013 et l'OMS qui tirait toutes les sonnettes d'alarme face au nombre considérable de décès, que la machine s'est accélérée.
Elle s'est vraiment accélérée parce que d'habitude, la mise au point d'un vaccin, c'est une dizaine d'années.
Oui, ça prend 10 à 15 ans.
Ouais. Et là comme en 18 mois, les scientifiques ont réussi à développer des vaccins.
Tout à fait. Alors, parce que justement, ils avaient pris un petit peu d'avance. Il restait plus que, entre guillemets, à le tester sur l'homme. Alors, ils l'ont testé sur 7500 personnes en Guinée, sur la fin de l'épidémie. En vérité, 3 vaccins auraient pu être testés, mais comme l'épidémie était en train de faiblir, on ne pouvait pas véritablement tester l'efficacité de tous ces vaccins-là. Donc, on en a testé un seul, qui avait été mis au point par un laboratoire canadien.
Ces premiers résultats sur cet unique vaccin, sur les 3, est-ce qu'ils sont à prendre avec des pincettes ? Est-ce qu'on peut conclure qu'il est efficace, ce vaccin ?
Alors, résultat extrêmement encourageant, 75% de réussite. C'est-à-dire 75% des personnes qui ont reçu ce vaccin et qui étaient des personnes qui avaient été en contact avec des malades ou les fluides ou des draps contaminés n'ont pas été malades. Quand on sait qu'une personne sur 3 décédait de la maladie, c'était quand même un résultat très très encourageant, mais effectivement un résultat à prendre avec des pincettes parce que l'essai n'a pas été conduit tout à fait comme d'habitude. D'habitude, quand on fait un essai de vaccin, on a beaucoup d'avance, donc on vaccine la moitié des personnes réellement avec le vaccin et l'autre moitié, on lui donne un médicament qui ressemble à un vaccin, mais c'est un placebo. Mmh. Et on compare les résultats des deux ensemble. Là, on ne pouvait clairement pas le faire dans une condition épidémique comme ça. Donc, on a vacciné tout le monde, les 7500 personnes, à des moments différents. Donc, le résultat doit être confirmé.
Sera lors d'une prochaine épidémie, qu'on souhaite la plus lointaine possible,
oui,
évidemment.
Oui, mais qui, hélas, selon les prévisions de l'OMS, arrivera tôt ou tard, puisque on en est persuadé, ce type de maladie resurgira.
Est-ce que la fin de l'épidémie, en tout cas pour le moment, la flambée semble contenue, est-ce que ça signifie que les recherches s'arrêtent ou est-ce que les scientifiques continuent de travailler ?
Non, pas du tout. Ils continuent à travailler. Je vous ai dit que 3 vaccins étaient en lice. Ils continuent à travailler sur la meilleure façon de fabriquer ce vaccin, comment l'inoculer pour que l'efficacité soit la plus grande encore.
En deuxième position dans le classement des 10 découvertes de l'année 2015 du magazine La Recherche, vous avez décidé de placer une technique révolutionnaire de génie génétique qui permettrait de manipuler facilement le génome humain. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est une technique, je vais vous donner son petit nom scientifique une fois pour toutes, ça s'appelle CRISPR-Cas9. Une technique qui a été inventée en 2012 et qui connaît des débuts fulgurants. Elle a gagné tous les laboratoires de manipulation génétique. Pourquoi ? Parce qu'elle permet avec une très grande efficacité de repérer un gène porteur d'une mutation. Et vous savez que les mutations peuvent générer des maladies. Elle permet donc de repérer plus facilement ce gène et surtout de le retirer très efficacement. Chose que jusqu'à maintenant, on faisait de façon assez approximative. Plusieurs essais de thérapie pour soigner des maladies génétiques ont été lancés pour plusieurs maladies différentes. Et cette technique-là promet vraiment une efficacité beaucoup plus grande. Elle a gagné tous les labos, comme je vous l'ai dit. Les généticiens nous racontent que des thèses qui devaient être menées en 3 ans pourraient maintenant être menées quasiment en 3 semaines, tellement cette technique est efficace. Donc, fatalement, je dirais, pour être moins pessimiste, cette technique a été essayée cette année sur l'embryon.
Sur l'embryon humain. L'embryon humain, c'est donc des biologistes chinois qui ont utilisé cette technique pour une maladie du sang, je crois, une maladie grave du sang. Et ça a quand même suscité une levée de bouclier de la part de nombreux chercheurs. Pour quelle raison ?
Oui, pourquoi ? L'espoir, évidemment, c'était de mettre au point cette technique sur l'embryon et d'éviter que ces embryons développent la bêta-thalassémie, cette maladie du sang qui est quand même très invalidante pour les enfants qui la contractent et les adultes. Hélas, son taux de réussite a été extrêmement faible. Et donc, levée de bouclier des généticiens qui ont estimé qu'on allait beaucoup trop vite avec cette technique, certes révolutionnaire, qu'il fallait se poser et réfléchir à l'utilisation de cette technique-là, qui est certes très efficace, mais sans doute pas encore suffisamment au point pour être utilisée sur l'embryon humain.
Oui. Et puis, chose qu'il faut dire, contrairement aux thérapies géniques qui transforment le génome, mais uniquement de la personne, sans toucher au génome qui sera transmis à la descendance, là, avec cette technique-là, on modifie le génome humain sur plusieurs générations. On est vraiment en train de transformer définitivement le génome d'une personne.
Bah, si on le teste effectivement sur des embryons, et des embryons très très précoces, au stade de quelques cellules seulement, toutes les cellules de l'embryon seront porteuses de cette modification, ce qui veut dire toutes les cellules, y compris les spermatozoïdes pour un garçon ou les ovules pour une fille.
Donc on fait des organismes humains génétiquement modifiés
sur plusieurs générations, d'où le signal d'alarme qu'ont tiré les généticiens.
On termine avec la découverte scientifique qui occupe la première place du classement du magazine La Recherche des découvertes de l'année 2015. Souvenez-vous, c'était le 14 juillet dernier, la sonde New Horizon atteignait son but après un long périple.
Un périple de 5 milliards de kilomètres, 9 ans d'attente, et aujourd'hui la sonde New Horizons va frôler Pluton, un survol de quelques heures et une chance unique pour les scientifiques d'en apprendre davantage sur cette petite planète du système solaire, car Pluton est resté jusqu'à présent la moins connue et la plus lointaine des planètes. Écoutez l'astrophysicien Sylvestre Maurice, d'ores et déjà émerveillé par l'exploit de la sonde américaine aujourd'hui.
Pourquoi c'est extraordinaire ce survol de Pluton ? Parce que on découvre une famille. C'est une nouvelle famille qu'on connaît très peu. On les voit avec nos télescopes, on connaît leur luminosité, leur capacité à renvoyer la lumière. Mais on a très peu de choses et là on va véritablement, on va dans le système de Pluton. Ça va durer quelques heures. Donc la découverte d'un nouveau monde et ça je crois que c'est fascinant.
Extrait du journal de 7h de France Inter le 14 juillet dernier. C'est un nouveau monde que les scientifiques ont découvert cette année, Sophie Kwan, grâce à la sonde New Horizon.
Ah oui, ce sont des magnifiques images dont on a à notre disposition, des images qui vont nous arriver au compte-gouttes. Donc celles que l'on publie ce mois-ci dans la recherche, ce sont quelques-unes des milliers d'images qu'on aura cette année. Donc ça va être une découverte qui va être distillée comme un bon café toute l'année.
Oui, parce que le survol a duré quelques heures, mais l'envoi des données va durer plus d'un an. Donc il y a encore au moins 6 mois de données qui doivent nous parvenir.
Exactement, à l'heure du haut débit, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour nous-mêmes, le public. Et alors la surprise que donnent ces images est vraiment totale. On s'attendait à voir donc dans cette planète naine des sols anciens, figés, quelque chose avec des cratères, mais quelque chose qui était assez peu remanié. Et en fin de compte, c'est totalement différent. On a découvert des terrains jeunes, remaniés récemment, redessinés visiblement par un mécanisme géologique qui nécessite une hypothétique source d'énergie interne qu'on ne connaît pas.
Vrai mystère pour les scientifiques. Qu'est-ce qui signe ces mouvements géologiques sur cette planète ?
Exactement. C'est une énigme qu'il va falloir explorer. On a découvert des montagnes de glace escarpées de 3300 mètres de haut. Là aussi, il faut qu'il y ait un mécanisme géologique pour les expliquer. Phénomène de type de celui qui a permis l'érection des Alpes. On a trouvé des traces d'écoulement, peut-être de la glace d'azote à la surface de cette planète. Des sortes de polygones, des figures géométriques à la surface qui résulteraient de contraction et de dilatation. Bref, un ensemble d'indices qui signifient vraiment que cette planète est vivante et recèle des secrets qui excitent la curiosité de toute la communauté des astrophysiciens.
Oui, alors pour en savoir plus sur cette découverte et les deux autres que nous avons évoquées, et plus généralement sur l'ensemble des 10 découvertes de l'année 2015 retenues par le magazine La Recherche, vous pouvez lire le numéro de janvier du magazine, déjà dans les kiosques. Et puis dès la semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard aux commandes de La Tête au Carré. Et d'ailleurs, chaque jour de la semaine prochaine, Mathieu reviendra lui aussi en début d'émission sur un fait marquant de l'actualité scientifique de 2015. Vous découvrirez donc 5 autres avancées scientifiques différentes de celles que nous venons d'évoquer avec Sophie Kouane du magazine La Recherche. Merci Sophie.
Merci Daniel.